France Culture. Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, un patrimoine radiophonique.
Mise au point, Eliane Contini reçoit Griselidis Réal, auteur de La Passe imaginaire, une femme déterminée à faire valoir les droits des prostituées, à les faire reconnaître. Elle a renoué avec ce métier après avoir voulu le laisser, suite à une réflexion sur le statut symbolique négatif des prostituées. Elle analyse leur utilité sociale, le refus de leur donner une place, refus inséparable du mépris dont elles sont l'objet, objet et pas sujet dans l'imaginaire. Elle explique pourquoi les hommes mariés sont concernés par la prostituée et demandeurs. Elle parle de leur fragilité, enfin elle déclare sa flamme à une certaine catégorie de ses clients, ceux qu'elle appelle les princes de l'amour.
Mise au point, bonsoir à tous. Mon invité ce soir est Griselidis Réal pour son livre La Passe imaginaire, publié chez Magna. Tout de même, je me disais, je suis gonflée avec toutes les saletés qu'on raconte sur les Arabes. Je leur ouvre ma porte la nuit, toute seule chez moi, sans aucun moyen de défense. Je suis toute nue devant eux, couchée sous eux. Et le dixième sait que chacun des autres m'a donné 100 francs français. Donc il pourrait facilement m'étrangler, me violer et me voler. Et non rien. Des paroles, des caresses et des sourires, des baisers et de l'amitié. Ces mêmes Arabes qu'on frappe, qu'on insulte et qu'on exploite, qu'on expulse, chez moi, ce sont les princes de l'amour. Beaux, sauvages et caressants, même dans une certaine brutalité. Surtout les Marocains. Je vais finir par en tomber amoureuse de tous. J'en garderai peut-être un comme amant. D'ailleurs, je vais me procurer les livres de Mohamed Choukri et Tahar Benjelloun en arabe pour leur faire lire, car souvent, ils ne savent même pas le français. Voilà, c'est dans une des premières lettres, c'est je crois la première lettre que vous écrivez à Jean-Luc Hénig, qui est donc à la fois écrivain et journaliste à Libération. Vous lui écrivez donc un grand nombre de lettres, je ne sais pas combien il y en a en tout.
Oui, il a d'ailleurs fait un choix parce qu'il y en avait beaucoup plus que ça. Je lui ai écrit pendant plus de 10 ans et il me réclamait toujours « Écrivez-moi, j'attends vos lettres », mais il ne répondait jamais.
Oui. Et vous lui avez donc écrit tout le temps?
Ah, j'écrivais, et les 2 ou 3 dernières années, il m'avait prévenu qu'il voulait les publier. Mais je n'y croyais pas. Moi, j'ai dit, personne ne voudra publier ça. Et alors, ça me laisse un répit. Mais ça me stimulait aussi peut-être pour écrire encore des choses, hein, en me disant, voilà, comme ça, les gens, ils vont prendre pour leur rhume. Hein.
Donc, vous êtes prostituée, vous avez écrit déjà « Le noir est une couleur » en 1975. Vous aviez d'ailleurs participé à tout le combat des prostituées à cette époque. Et vous aimez écrire, vous êtes aussi peintre et je crois que vous avez été aussi, vous êtes toujours, je ne sais pas, vous avez donné des cours en tout cas de sociologie à l'université.
J'ai été invitée dans un séminaire de 2 heures à l'Université de Genève. D'autre part, on a fait un film avec mes enfants et moi qui est sorti aussi à l'Université de Genève aux activités culturelles. Donc, de temps en temps, on fait appel à moi, à mes compétences, mais je ne suis naturellement pas professeur titulaire, bien entendu.
Oui. Vous êtes fille, vous êtes suisse? Et votre père était directeur d'école, c'est ça ?
L'école suisse d'Alexandrie, quand j'avais 6 ans. C'est là que je suis allée pour la première fois à l'école de mon père, mais pas dans la classe des grands. Et ensuite, il est parti en Grèce et malheureusement, il est mort quand j'avais 8 ans et demi. Hein. C'était un homme très érudit qui savait 18 langues et qui écrivait, à l'époque de sa mort, une thèse sur la langue grecque parlée à l'époque de Périclès. Donc j'ai eu la chance, moi, d'avoir des parents professeurs, cultivés, qui m'ont appris à aimer tout ce qui est beau, l'art, la lecture, la littérature, la musique, et tout ce qui est vraiment valable pour l'esprit. Et donc c'est moi un privilège que j'ai eu, que tout le monde n'a pas eu.
Et c'est parce que vous avez eu 3 enfants, 4 enfants de 3 pères différents, oui. Qu'à 30 ans vous avez commencé ce métier.
Oui, à l'âge de 32 ans, je m'y suis prise très tard et je ne savais même pas que la prostitution existait. Donc c'était vraiment pour une question de survie matérielle avec deux de mes enfants que j'avais kidnappés, avec lesquels j'étais partie en Allemagne avec un grand amour ensuite qui n'a pas marché. Mais je n'aurais jamais pensé devenir prostituée et j'ai essayé plusieurs fois d'arrêter la prostitution. Et finalement, je m'y suis remise volontairement à l'âge de 48 ans et définitivement en me disant « c'est pour faire la révolution avec les prostituées pour qu'elles soient enfin reconnues comme des femmes à part entière ».
Alors justement, votre métier, on le voit à travers vos lettres, malgré les difficultés, parce que c'est quand même très fatigant, vous l'aimez ?
Oui, vous comprenez, je trouve que c'est un peu paramédical et il y a énormément de psychologie qui se développe, ce sont des échanges humains. Il n'y a pas que le fait que l'homme veuille un soulagement sexuel. Il se confie beaucoup à une prostituée, surtout quand elle est plus très jeune, comme moi, j'ai 62 ans et demi. Ils nous racontent leurs échecs amoureux, leurs difficultés professionnelles, les problèmes avec leurs enfants, avec leur femme ou leur ex-femme. Et ils se livrent énormément et ils attendent de nous d'abord qu'on les écoute et qu'on arrive peut-être à leur aider, à leur redonner confiance en eux, non seulement dans le mécanisme sexuel qui peut avoir des défaillances, surtout chez certains hommes un peu âgés, mais aussi leur redonner confiance en eux, dans la vie, dans leur personnalité. Je crois qu'il y en a qui deviennent de véritables amis. Vous les gardez pendant plus de 20 ans, ils reviennent, ils ont confiance en vous. Et chaque fois qu'ils ont besoin de vous, ils font appel à vous. Mais quand vous ne les voyez pas pendant longtemps ou plus du tout, vous vous dites, eh bien c'est très bien, j'ai fait mon boulot, il a renoué avec une femme, il a peut-être une vie amoureuse, une liaison, il s'est remarié, il n'a plus besoin de moi. Vous êtes même heureuse, vous avez fait du bien, vous vous êtes sentie utile.
Et pourtant, ça n'est pas facile tous les jours, c'est très fatigant, vous êtes baignée dans un monde d'odeurs, quelquefois répugnantes, des gens, des hommes pleins d'alcool qui viennent vous voir. Ouais. Vous les faites, comme vous dites, entre guillemets, plus ou moins, il vous faut plus ou moins de temps, plus ou moins de fatigue. Et en même temps, vous écrivez, nous ne jouons ils sont pas ou presque pas aucune importance. Les bourgeoises ne jouissent pas non plus. En plus, elles sont aigries, cocues, flétries, vouées au ménage, ternes, vieillies avant l'âge. Et nous, nous sommes belles et scandaleuses, maquillées, ornées, nues, désirées, et on nous paie.
Oui, c'est ça, je crois, la pierre d'achoppement principale. Quoiqu'il y a beaucoup de femmes qui ont épousé des hommes, finalement aussi pour leur situation financière et professionnelle, parce que ça devient la femme d'un médecin ou d'un directeur ou d'un PDG, d'un ingénieur. Enfin, c'est pas toujours par amour, ce sont pas toujours des mariages uniquement d'amour.
Donc, c'est une autre forme de prostitution.
Une femme mariée doit supporter son mari pendant des années. Et nous avons eu plein de confidences d'hommes mariés qui disaient, voilà, ma femme ne veut plus rien savoir sur le plan sexuel, elle n'est pas du tout amoureuse de moi, elle m'embrasse même pas sur la joue. Mais enfin, c'est la mère de mes enfants, nous avons des intérêts communs, alors je vais pas divorcer. Mais finalement, il n'y a plus rien au point de vue de l'amour et de la sexualité. Donc, c'est pas évident que de se marier, ça soit le grand bonheur non plus, ni pour la femme, ni pour l'homme. C'est rare, les mariages qui réussissent vraiment et où il y a vraiment de la passion et de l'amour qui subsistent longtemps. Donc, nous, ce qu'on nous reproche, c'est de gagner de l'argent en faisant l'amour. Mais moi, j'ai eu une amie qui m'a fait une confidence, elle m'a dit, un de mes clients m'a dit, toi, tu me prends 100 francs et tu me fais l'amour. Ma femme me ramasse tout le reste, elle ne me fait jamais l'amour. Oui, alors voilà, moi j'estime qu'on travaille honnêtement, on n'a jamais volé les maris de ces dames.
Mais pourquoi l'envie vous prend quelquefois, vous le dites beaucoup de fois à travers vos lettres, de hurler, de crier, de boire, de fumer beaucoup. Je veux dire, c'est quand même pas évident. Hein.
C'est-à-dire, il faut aussi un peu faire la fête, se défouler, on ne peut pas toujours rester là comme des pauvres mulets qui tirent une charrette. Hein. Il faut aussi déposer la charge et danser, s'amuser, rigoler, il faut aimer la vie.
Oui, mais c'est ces cris que vous poussez toujours, c'est des cris de quoi ?
Pendant le travail ?
Oui, ou pendant ?
Ah, alors là, ça fait partie du travail. Les hommes, ça les stimule. Si on gémit, on glousse un peu,
ah non,
on pousse quelques cris.
Ah non, je parle pas de ça, vraiment des hurlements. Quelquefois, vous êtes furieuse, vous défoulez, quoi.
Mais moi, je les engueule, je les éduque, vous savez. Je leur dis, il faut vous changer de chaussettes, et puis il faut être propre, il faut arrêter de vous saouler la gueule comme ça, ou vous irez boire après, mais pas avant, parce que ça coupe les ailes.
Hein. Ouais. Alors justement, enfin, j'avais commencé par lire ce que vous dites donc à propos de ces Arabes, qui sont des princes pour vous. Effectivement, vous, les hommes, évidemment, vous les voyez nus, et vous les voyez un peu tels qu'ils sont. Qu'est-ce que vous en tirez, justement, en tant que sociologue, si je puis dire ?
Je pense que je ne suis pas la seule à le penser. Les hommes qu'on présente toujours comme des hommes forts, dominateurs, les chefs de famille, les chefs d'entreprise, ils ont un côté aussi extrêmement angoissé, extrêmement fragile, extrêmement émouvant. Et dans chaque homme, vous retrouvez l'enfant, le petit garçon, qui a eu peut-être peur de sa mère ou peur de perdre l'amour de sa mère ou qui a besoin de sécurité, qui a besoin d'amour, qui a besoin de confiance. Et ça, c'est très bouleversant. Je vois les hommes à nu, mais non seulement le corps, mais l'âme aussi.
Ouais. Alors, dans la première lettre du livre, c'était daté du 29 août 80, que vous écrivez donc à Jean-Luc Hénic, Griselda Israël, vous dites, vous commencez par un rêve que vous avez fait. Vous lui dites même que c'est un rêve que vous avez fait tous les deux ensemble. Ou vous dites que dans ce rêve, vous l'aimiez. Vous étiez assise à côté de lui dans une voiture inondée de larmes et à un moment vous aviez un geste très beau, dites-vous, comme j'avais la main sur les yeux pour cacher mes larmes, vous souleviez très délicatement mes cheveux pour les essorer et vous me parliez, vous me disiez de ces choses très banales et horriblement cruelles que disent les amants pour se débarrasser d'une femme qu'ils n'aiment plus et n'ont jamais aimée en l'humiliant comme une vieille chose devenue inutile qu'on jette. Ça, c'est la première lettre de votre livre. Et la dernière, c'est votre chien.
Non, c'est la passe imaginaire, la toute dernière lettre.
Ben, c'est la lettre du chien, celle
non.
de... Ah ben alors l'avant-dernière. L'avant-dernière, disons. En tout cas,
oui, la
il s'appelle Gypsy King.
Oui, c'est un vrai chien que j'ai.
C'est un vrai chien. Vous l'avez recueilli à la Société Protectrice des Animaux. Et c'est lui qui écrit donc à Jean-Luc Hénig. Il lui dit « On m'avait débarrassé à 11 ans passé d'une existence tranquille et sage chez des dames bien. Il était resté 10 jours dans une cage, il était désespéré. Et vous, alors il écrit, mais c'est elle, il vous appelle elle. C'est elle qui est venue, qui m'a sorti de l'enfer, un peu à contre-cœur, comme je l'ai su ensuite. C'est vrai, j'étais hideux, cachexique, arthritite, couvert de pus et presque rachitique. À force de chagrin, on me voyait les côtes. Et donc vous l'avez soutenu, il vous trouve quelquefois insupportable parce que vous l'avez dressé, mais il écrit « C'est vrai, Jean-Luc, et jusqu'à mon dernier souffle, je l'aime et je ne puis me passer d'elle. »
Oui.
Vous Alors savez, l'homme que vous aimez, c'est Jean-Luc Hénig, donc qui n'est pas un amant, enfin qui est un ami, et celui qui vous aime, c'est un chien. Oui. Alors l'amour.
Vous voyez, moi, Jean-Luc Hénig, j'estime qu'entre nous, c'est un amour spirituel. Donc, nous avons évité le pire, ces déchirements qui se produisent lorsqu'un amour charnel se casse. Donc, ça ne pourra peut-être jamais se casser, bien que j'aie provoqué plusieurs fois des cassures qui ne se sont pas produites. Ce qui prouve qu'il est solide. Hein, et quelque part, notre amitié amoureuse spirituelle persiste depuis bientôt 12 ans. Et un chien, vous voyez, c'est innocent, c'est pur. Un chien, il aime sans calcul, sans condition, sans réfléchir. Il s'attache et je crois qu'il peut mourir d'amour, un chien.
Il dit « Je suis à elle depuis 2 ans, de toute éternité et pour toujours ». Est-ce que justement, qu'est-ce qu'il en est vraiment de l'amour? Parce que tous ces hommes que vous avez vus, que vous avez rencontrés, d'une certaine manière, vous les avez quand même assez aimés, enfin entre guillemets, rapidement, de passage. Mais l'amour, le vrai, c'est quoi?
Je crois que l'homme est profondément fragile et angoissé. Il croit toujours peut-être qu'on va cesser de l'aimer, alors il prend les devants. Il quitte une femme pour une autre en se disant comme ça, c'est moi qui décide, on va pas m'abandonner. Ce sont, je crois, de grands abandonniques, ils ne le savent pas toujours. Donc, c'est toujours fragile l'amour. Ça casse d'un côté ou de l'autre, ou ça peut rester par miracle toute la vie.
Et vous avez...
Mais ça, vous n'avez jamais de garantie.
Vous avez toujours vos enfants.
Ah, j'ai mes 4 enfants, on s'aime énormément, mais moi je ne fais pas le flic maternel. Donc je les laisse vivre, je leur fais confiance, et on a un dialogue merveilleux, on a de l'amitié, on a de l'amour.
Ils ont accepté votre métier ?
Je leur ai expliqué que c'était un humanisme d'une certaine façon, et que je luttais aussi avec d'autres femmes pour nos droits, pour se faire respecter. Et eux, ils ont respecté ma décision, mon choix, et je sais par d'autres gens qui sont fiers de moi et qu'ils m'aiment.
Je vous remercie, Griselda Israël. Donc, moi, je considère que ces lettres sont une œuvre littéraire. La passe imaginaire, un livre que donc Griselda Israël a publié aux éditions Mania.
Cette émission a été diffusée pour la première fois le 3 avril 1992.